Bonjour Guillaume Herner.
Bonjour Sylvie.
Nous sommes avec vous, une fois n'est pas coutume, c'est vous qui passez à la question pour le livre que vous signez intitulé Schmattes. Est-ce que je le prononce correctement ?
Absolument.
Très bien.
Vous êtes parfaite en prononciation.
Voilà, qui est donc la signification du mot fringue en yiddish, livre qui est sorti aux éditions Flammarion. Et ma première question est la suivante. Guillaume Herner, en quoi, selon vous, vos souvenirs ont impacté votre vie ?
Bon, il y a évidemment, comme chez tout être humain, une volonté à la fois de retrouver son passé et d'essayer de comprendre comment celui-ci vous a construit. Et moi, j'ai eu un trajet un peu en coude, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser dans les fringues. Quand je dis bosser dans les fringues, c'est bosser dans les fringues. C'est-à-dire, j'ai bossé au Sentier, dans une marque dont certains se souviennent peut-être, surtout certaines se souviennent, qui s'appelait La City. Et j'ai commencé en portant des ballots de tissu, en livrant des gens. Non pas que j'ai été un self-made man, c'était pas le cas. J'étais diplômé d'une école de commerce, mais je cherchais à gagner de l'argent et je suis entré dans une petite entreprise. Et dans les petites entreprises, vous faites tout ce qu'il faut faire parce que si vous ne le faites pas, bah personne d'autre ne le fera. Donc j'ai commencé à travailler dans cette petite entreprise et cette petite entreprise est devenue grande, si bien que je suis devenu directeur du développement de la City qui à l'époque a eu 50, 60, 70 magasins, a employé jusqu'à 700 personnes. Et donc, j'y suis resté 13 ans, alors que ça devait être, non pas forcément un job d'été, mais en tout cas, ça devait être une courte parenthèse. La parenthèse s'est rallongée. Et c'est seulement ensuite, après donc avoir quitté la City, que j'ai eu d'autres expériences professionnelles, et notamment celle de journaliste, puisque je suis journaliste, et plus précisément encore journaliste à France Culture depuis 10 ans. Et j'ai voulu raconter finalement cette première étape de mon existence, parce que ce sont mes souvenirs, et évidemment, je les observe avec tendresse et nostalgie, mais c'est aussi un monde qui aujourd'hui est complètement disparu. Le Sentier n'existe plus, les dernières marques de vêtements bon marché français ou bien sont aujourd'hui engloutis, ou bien sont quand même assez mal en point. Si je vous dis Kukaï, Nafnaf, Morgan, ça doit vaguement vous dire des choses, mais justement, ça vous dit des choses parce que ces marques n'existent quasiment plus. Et aujourd'hui, les jeunes vont s'habiller ou bien chez Zara et H&M, comme d'ailleurs les moins jeunes, mais surtout chez Chine. Donc on a le mouvement du capitalisme, une marque en ayant remplacé une autre, donc Zara ayant fait du tort à la City et consorts, et puis aujourd'hui, probablement, Chine faisant du tort à Zara.
D'accord, mais dans ce livre, vous racontez aussi votre enfance et pourquoi vous vous retrouvez à la City. Vous racontez que, par exemple, vous ne vous souvenez pas, dans votre arbre généalogique, de gens qui n'auraient pas travaillé dans le tissu. Vous racontez aussi que vous êtes ashkénaze et que finalement, c'est intriguant, cette religion qui est portée par le tissu, mais qui a comme emblème des fils qui dépassent, notamment de châles pour pour certaines fêtes. Vous racontez que vos deux grands-pères ont été sauvés par la couture d'une façon ou d'une autre, et qu'ils ont deux visions très différentes de ce que veut dire le textile. Vous racontez enfin que toute votre famille, ou presque, a échappé à quelque chose grâce ou par le textile, et que chacun de leurs gestes raconte leurs secrets. Et donc, je vous repose la question, en quoi tout cela aura impacté l'homme que vous êtes aujourd'hui, y compris l'écrivain Guillaume Herner ?
En fait, effectivement, hein, j'ai trois manières de vous répondre. Bon, la première est la plus rapide. Je peux vous dire que j'ai bossé dans le textile parce que c'était la solution la plus simple pour moi. La deuxième, effectivement, elle est plus complexe. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une spécialisation textile dans la famille. Et comme vous le dites, effectivement, je n'ai pas souvenir de personnes qui aient travaillé dans autre chose que le textile. J'ai pas beaucoup de mérite parce qu'on a assez peu de souvenirs dans la famille. C'est-à-dire comme mes grands-parents de part et d'autre viennent de Pologne, étaient juifs, ce qui signifie que entre eux et nous, plus exactement entre les frères et sœurs qui étaient restés en Pologne et nous, il y a eu la Shoah qui a non seulement tué les êtres, mais aussi bouleversé ces lieux qui étaient des lieux très juif, puisque en Pologne, il y avait beaucoup de villages qui étaient à 40, 50, 60% peuplés par des juifs. Donc, tout ceci aujourd'hui n'existe plus, si bien qu'on a du mal à remonter l'arbre généalogique. L'arbre, si vous voulez, est plutôt un arbuste. Et donc, il y a effectivement un lien particulier entre ma famille et le textile. C'est pas seulement une spécificité de ma famille, c'est aussi une spécialité de beaucoup de juifs ashkénazes, pour différentes raisons. D'abord parce que le textile est une activité qui est finalement distincte des autres dans le judaïsme, parce qu'on considère que c'était l'un des travaux nécessaires à la fabrication du temple, donc l'un des travaux, une des tâches qu'il ne faut pas accomplir pendant le Shabbat. Il y a aussi un certain nombre de règles de la religion juive en matière de textile. On connaît bien, par exemple, l'interdiction du port, mais il y a, par exemple, l'interdiction de porter des vêtements qui sont faits de lin et de laine. Bref, ça n'est pas une profession anodine. Et puis, dernière réponse, effectivement, comme vous l'avez dit, le textile est une profession très chargée dans ma famille, d'abord parce qu'elle a permis à tous de se nourrir dans des conditions difficiles. C'est-à-dire que lorsque la guerre est arrivée, mes grands-parents paternels ont décidé de se cacher dans une petite maison qui était la maison d'une tante. Donc toute la famille s'est rassemblée dans cette petite maison, et cette petite maison était située à Drancy, ce qui n'est pas une idée, comment dirais-je, très commune de se cacher quand on est juif pendant la guerre à Drancy. Et ils ont survécu notamment par le biais de mon père, qui à l'époque était un garçonnet, puisqu'il est né en 29. Donc imaginez, lorsque les juifs ont dû porter l'étoile jaune, il avait à peine 12 ans. Et lui était suffisamment petit, c'était un garçon petit de taille, qui ne passait pas pour avoir son âge. Et donc il se faufilait, il ne mettait pas l'étoile jaune, et il apportait des pièces de tissu à un certain nombre de fabricants qui les rendaient à mes grands-parents, qui les montaient. Et donc, en fait, c'est mon père qui, par ce biais-là, a fait vivre la famille. Et puis, comme il aimait beaucoup les livres, il gardait un peu d'argent ou il bricolait, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, il achetait des livres chez les bouquinistes, il revendait des livres. Donc, ça donne à la fois un attachement aux livres très important, puisque c'est quelqu'un qui a littéralement risqué sa peau pour les bouquins, ce qui... Et peu commun, d'ailleurs, tant mieux que ce soit peu commun. Et puis aussi, effectivement, un attachement aux vêtements, avec un certain nombre de négociations difficiles, puisque mon père me racontait qu'un jour, une dame lui a dit, non, je vais pas te confier du tissu, parce que si les Allemands viennent t'arrêter, je reverrai jamais mon tissu. Lorsqu'on a 12 ans, j'imagine que c'est une phrase qui effectivement marque. Et puis, dernière chose, de l'autre côté, autrement dit, du côté de la famille maternelle, cette fois-ci, mon grand-père maternel, qui a été arrêté dans deux camps d'internement français, donc il faut savoir qu'en France, il y avait des camps d'internement, ça n'était pas des camps de concentration, c'était pas des camps d'extermination, mais les Juifs qui y étaient promis, évidemment, à une mort certaine. Mon grand-père a fait les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Il s'est enfui de ces deux camps, et notamment dans l'un d'entre eux, il s'était enfui parce qu'il avait réussi à fabriquer les vêtements des gardiens du camp, ou à fabriquer ceux de leurs femmes, que sais-je. Et cela lui a permis de nouer des liens. Et un jour, l'un des commandants du camp l'a fait venir et lui a dit « Zeltman, ça sent mauvais ». Mon grand-père a compris qu'il fallait s'enfuir, ce qu'il a réussi à faire, mais malheureusement, il n'a pas réussi à convaincre son beau-frère de partir avec lui. Et le beau-frère, on imagine la fin qui lui a été réservée. Donc, pour toutes ces raisons, si vous voulez, le textile n'est pas n'importe quel métier, n'est pas n'importe quelle profession dans la famille.
Moi, je vais vous dire l'impression que les souvenirs ont impacté votre écriture, parce que finalement, votre vie aujourd'hui, Guillaume Erner, semble être celle de quelqu'un qui s'interroge sur la place et l'identité. Et dans ce livre, on a vraiment cette sensation-là, que vous racontez, d'ailleurs vous le dites vous-même, Vous racontez dans ce livre que finalement, vous êtes aussi devenu journaliste parce que vous avez réalisé à un moment donné l'importance de sortir du déterminisme social. Et donc, votre ouvrage est très intéressant dans cette lecture qui fait que vous semblez être un petit garçon curieux et nourri de littérature, vous l'avez dit. Votre père a dû aussi vous mettre sur cette voie-là. Vous racontez aussi, contre toute attente, que quand vous êtes en école de commerce, c'est Durkheim que vous rencontrez. Et pas les chiffres, et pas le marketing. C'est Durkheim que vous rencontrez. Et donc, vous semblez déjà sur la voie de ce journaliste que vous êtes et qu'on écoute avec joie le matin sur France Culture. Donc, ma question est la suivante, c'est finalement, ce principe de famille, de quartier, parce que comme vous le dites, votre histoire de famille s'insère dans le quartier du Sentier, qui a été un monde en soi. Vous le racontez très bien, avec des figures, avec des repères, avec des façons d'être. Vous parlez des Ashkénazes comme personnes, avec beaucoup de tendresse. Et vous parlez des Séfarades qui arrivent, dont vous dites le XXe siècle, finalement, aura peu reconnu les Séfarades à leur place de victimes de l'Exode et de la fin de la colonisation. Et vous racontez la rencontre des Ashkénazes et des Juifs dans le Sentier. Et vous racontez la découverte de la joie. Tout ça ne converge-t-il pas vers, de votre part, une grande réflexion générale et probablement de longue durée sur la place et l'identité ?
Bon, et la question de l'identité, si vous voulez, c'est une question inépuisable en sociologie. Et alors la sociologie, évidemment, elle traite des collectivités, donc des grands nombres. Et nous sommes des individus, donc on a la possibilité de faire mentir ces grands nombres. Et donc, effectivement, les déterminismes sociologiques, ils existent. S'ils n'existaient pas, d'ailleurs, il n'y aurait pas de sociologie. Mais chacun d'entre nous a la possibilité de s'éloigner de ces déterminismes sociologiques. Autrement dit, il ne tient qu'à vous, finalement, de les faire mentir. C'est quelque chose qu'on a tous la possibilité de faire. Et donc, je m'étais raconté l'histoire. Mon père m'avait raconté l'histoire que un juif d'extraction, non pas modeste au sens social, puisque mes parents étaient des commerçants et ils gagnaient très bien leur vie, mais d'extraction modeste au niveau culturel, parce que mes parents n'étaient pas professeurs à la Sorbonne, mes parents n'avaient pas le bac, mes grands-parents savaient à peine parler français. Donc évidemment, ça donne une généalogie qui n'est pas une généalogie très portée sur les lettres. Et donc on s'était raconté la fable que on ne pouvait pas devenir journaliste dans ces conditions-là. Je dis que c'est une fable et je le dis pour tous les enfants ou les adolescents qui nous écoutent, puisque finalement, personne n'est contraint à réaliser un déterminisme sociologique, quand bien même ces déterminismes existent, puisque je ne cherche évidemment pas à les nier. Et il y a effectivement eu chez moi cette volonté de réfléchir. Pourquoi suis-je devenu schmatologue alors que j'aurais très bien pu faire comme certains de mes camarades, passer une école de journalisme et devenir journaliste par une voie qui serait une voie beaucoup plus traditionnelle. Je ne serais pas devenu le même journaliste, puisque je n'aurais pas eu 13 ans de détour par le Sentier, mais je serais devenu journaliste de manière beaucoup plus sûre et beaucoup plus rapide. Et donc, je me suis dit que finalement, j'avais probablement cherché à prolonger la vie d'un certain nombre de personnes qui étaient mortes, que il y avait eu une sorte de transfert qui fait que je me suis trompé au minimum d'un demi-siècle, puisque personne dans ma génération, donc j'ai 58 ans, personne dans ma génération n'a bossé dans les fringues après une école de commerce. On faisait une école de commerce, après on allait bosser, on ne sait rien, dans le marketing, la finance, que vous voulez, donc dans une boîte normale, pas avec des gens un peu bizarres qui bossaient au Sentier. Et puis encore moins quand on voulait faire du journalisme. Quand on voulait faire du journalisme, bah, on faisait du journalisme et puis point final, quoi. Donc si vous voulez, c'est là-dessus effectivement que je me suis interrogé. L'identité est évidemment une source inépuisable de réflexion, surtout lorsqu'il s'agit d'une identité aussi complexe que le judaïsme. Toutes les identités sont complexes, hein, bien sûr, mais le judaïsme est une identité complexe d'abord parce que ça n'est pas uniquement une religion. On voit bien que c'est plus compliqué que la religion. Ça n'est pas quelque chose de monolithique parce qu'il y a donc les Ashkénazes qui viennent de l'Europe de l'Est et les Séfarades qui viennent du Sud, qui viennent du Maghreb et qui ont une culture très différente. Et puis enfin, ça n'est pas une identité comme les autres parce que c'est une identité qui est très marquée par l'histoire et notamment par l'histoire récente. C'est-à-dire, ça n'est pas possible de penser la condition juive sans la Shoah, ça n'est pas possible de poser la condition juive sans la question d'Israël, sans la question d'Israël qui se pose à nouveau frais depuis le 7 octobre. Alors on peut très bien considérer, comme moi d'ailleurs, que je suis un juif diasporique, c'est-à-dire je suis né en France et j'espère mourir en France. Je me considère parfaitement comme français, mais dans le même temps, je sais bien que la moitié des juifs dans le monde, je simplifie, vivent en Israël et que par conséquent, on ne peut plus penser la question juive comme si l'État israélien n'existait pas.
Dans ce livre, vous racontez aussi l'évolution des mœurs, puisque vous parlez d'un temps où le rapport à l'achat, le rapport au commerce, le rapport aux vêtements et donc à la représentation que nous avons les uns des autres, mute complètement. On part d'un endroit où, comme vous le dites vous-même, et c'est très joli, vous dites que jusque dans les années 60, le temps pris à confectionner un vêtement fait partie du prix. Vous parlez du moment où les mannequins femmes, tout d'un coup, ne sont plus choisies parce qu'elles sont des modèles féminins, mais parce qu'elles vont devenir des alibis. On est en plein dans les années tapis, dans les années 80, qui sont des années fric, où vous le dites, tout d'un coup, les multimarques vont naître aussi avec des centres commerciaux à tout bout de rue. Donc, vous racontez aussi un changement. Un changement à travers des personnages forts. Et votre livre, il est très original pour cette raison-là. Vous partez, par exemple, de votre maman, dont vous dites qu'elle a quelque chose de Sonia Riquel, pour arriver justement au changement des mannequins qui sont tellement maigres que finalement la représentation féminine a changé. Et à cet endroit-là aussi, vous nous interrogez, vous nous poussez à nous interroger plus exactement sur ce que le vêtement raconte dans le changement des mœurs, de notre rapport les uns aux autres.
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que le vêtement, ça peut passer pour un détail, pour une coquetterie. Ça n'est en rien une coquetterie. D'abord, il y a une phrase de Tocqueville qui me paraît particulièrement vraie. Il explique que lorsqu'une révolution est arrivée dans les petites choses, c'est qu'elle est arrivée dans les grandes. Et donc, on peut très bien suivre l'histoire du capitalisme, l'histoire de nos sociétés au travers du vêtement. Ça donnerait d'ailleurs lieu à des développements inépuisables. Mais pour être succinct, si vous voulez, la première chose évidente, c'est que les révolutions industrielles, et notamment la révolution industrielle anglaise, elle s'est faite sur le textile. Donc, ça n'est pas rien. Elle s'est faite sur le textile via donc les métiers à tisser, via les échanges marchands au travers du textile. Aujourd'hui, la transformation, si vous voulez, de la division internationale du travail, elle se fait au travers du textile. C'est-à-dire, on voit bien que le poids de la Chine, le décollage du Bangladesh, la question indienne, tout ça, ça se lie au travers du textile parce que, tout simplement, le textile est une industrie de main-d'œuvre formidable. C'est-à-dire que si je dois ou si vous devez apprendre un métier alors que vous n'en possédez aucun, je peux très bien vous mettre à la machine à coudre, je peux vous mettre à la coupe de tissu, même si, je ne veux pas vous manquer de respect Sylvie, mais même si vous n'êtes pas très doué pour coudre droit, bon, vous allez y arriver. Moi-même, j'ai réussi à couper du tissu alors que je ne suis vraiment pas doué de mes mains. Donc, ce sont vraiment des métiers qui sont des métiers importants pour les gens qui n'ont pas de qualification et qui permettent de mettre au travail, avec finalement peu de capitaux, beaucoup de gens. Alors, on peut le déplorer puisque ça provoque toute une série de problèmes sociaux, mais on peut aussi s'en féliciter parce que, bon, il faut que les gens travaillent. Sinon, évidemment, ils meurent de faim. Et puis, si on se déplace de la production vers la consommation textile, on voit bien que le textile est une manière très symptomatique de juger de la société. C'est-à-dire que si on veut voir les choses de manière très schématique, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait, pour les très riches, des couturiers, donc Lanvin, Chanel, etc. Et puis, pour les moins riches, des tailleurs. Les tailleurs y fabriquaient des pièces uniques, c'est-à-dire vous arriviez avec une photo, un patron, que sais-je, et ils allaient vous fabriquer une veste. Cette veste, elle était évidemment moins chère que celle de Lanvin, etc., mais c'était quasiment de la fabrication à la main, même si on utilisait une machine à coudre, c'était du travail à l'unité. Après-guerre, les 30 Glorieuses, on commence à développer une production de masse, et on va fabriquer le prêt-à-porter, c'est-à-dire non plus une veste, mais 50 vestes, et on va vendre ces vestes parce que finalement, même si on n'est pas tous faits de la même façon, on peut tous porter une veste taille 50, 52, etc. On peut normaliser les choses. Et ça, c'est important au niveau de la production, c'est important au niveau de la mode, parce que la mode, elle va concerner la plus large partie de la société. C'est-à-dire que la mode, elle existe probablement depuis le 16e, le 17e, le 18e siècle, mais à l'époque, elle concerne uniquement une petite partie d'individus, des nantis. Et si vous voulez, le grand mouvement auquel on va assister, c'est pas la naissance de la mode, c'est sa diffusion. C'est-à-dire l'idée que vous soyez riche ou pauvre, vous allez pouvoir vous habiller à la mode et donc vous allez devoir abandonner vos vêtements anciens pour des vêtements nouveaux, pas tellement parce que vos vêtements anciens sont usés, mais parce que vous n'allez pas continuer à porter cette veste qui est hors d'âge. Et ça, c'est un phénomène nouveau, non pas pour les nantis, mais si vous voulez, pour la totalité de la population. C'est-à-dire que la diminution du prix des vêtements, qui est significative, hein, c'est vraiment très marquant, fait que les gens vont changer de vêtements bien avant que ceux-ci ne soient usés. C'est quelque chose de particulièrement clair. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose qui me fascine, la mode, si vous voulez, elle va organiser les rapports de consommation, pas seulement pour le textile, mais en fait pour la totalité du monde. C'est-à-dire, vous voyez les objets technologiques, les services, comme par exemple les vacances, bref, toute une série d'objets, d'objets matériels et immatériels, vont être gouvernés par la mode. Et donc, il y a quelque chose de très précurseur dans les vêtements qui fait que les vêtements sont les premiers objets gouvernés par la mode, mais aujourd'hui, le phénomène même de la mode se diffuse.
Et vous avez conscience de ça au moment où vous êtes dans le sentier? Vous avez conscience de toute cette... C'est ce bouleversement.
Bon, écoutez, c'est, non, je vais pas vous dire que j'avais la tête sociologique dès que je suis entré au sentier. J'ai eu conscience de ça juste après, quand j'ai commencé à écrire sur la sociologie de la mode. Oui, c'est évident. Et si vous voulez, cette certitude, elle n'a fait que se confirmer depuis lors. Parce que quand vous prenez les objets technologiques, par exemple, vous voyez que ceux-ci sont évidemment régi par la technologie, mais de plus en plus régi par la mode aussi. C'est-à-dire que le téléphone portable, son organisation, les applications que vous utilisez, tout ça, ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes de tendance et qui sont des phénomènes assez peu explicables par des causes objectives. C'est ça, en fait, la mode. C'est l'idée que vous portez une chemise noire, mais si je vous demandais, par exemple, de... porter un t-shirt avec marqué Bricorama, il aurait la même valeur d'usage que votre chemise, mais probablement vous seriez embêté de porter ce t-shirt. La mode, c'est ça, si vous voulez, des choses qui, en partie ou en apparence, peuvent passer pour irrationnelles. Et donc ça, si vous voulez, c'est un phénomène que j'ai vu grandir et qui aujourd'hui me paraît essentiel pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et effectivement, dans les années 90, j'ai vu naître une certaine ébullition au travers des mouvements de mode, probablement aussi parce que la période était assez heureuse. C'est-à-dire que finalement, 1989, c'est la chute du mur de Berlin et c'est la naissance ou l'idée que l'on va vivre dans un monde pacifié. Et c'est cette illusion-là qui va s'effondrer en 2001. Mais entre 1989 et 2001, on a pu croire que l'histoire s'était arrêtée.
Parce que je vous pose cette question-là, parce que, en fait, en lisant votre livre, on a l'impression que vos souvenirs, en fait, vous les assemblez dans ce livre, comme si au moment même où vous les vivez, vous voyez bien une forme de chute. D'abord parce que vous racontez que toutes vos années de... je n'arrive pas à le dire
correctement. Schmatologie.
Merci beaucoup. Vous les vivez avec à la fois vraiment une grande joie. D'une part, parce qu'on dirait que vous avez vraiment conscience d'être dans ce décor puissant, plein d'amour en réalité, voilà, d'une part. Et d'autre part, que vous voyez bien que ça peine. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on se croirait dans Narcos, dans votre récit, quand vous racontez l'arrivée de Zara, quand Naf Naf déclame que la marque, c'est la marge. Enfin, on a l'impression que ça chauffe, quoi. Et que finalement... c'est plus grave que ça n'en a l'air comme ça à raconter sur un coin de table.
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, donc il y a eu schématiquement 10 années de croissance très forte où on gagnait beaucoup d'argent, on gagnait beaucoup d'argent assez facilement, c'est-à-dire on prenait une veste, on la reproduisait dans tel ou tel tissu, etc. Et tout le monde était content, beaucoup de gens achetaient cette veste et tout allait bien. Et puis, effectivement, on est tombé sur un os qui s'appelait notamment Zara, parce que Zara a fait un peu la même veste, mais probablement la fabriquait-il mieux, ou en tout cas, il la vendait moins cher. Et donc, ça a fini par se savoir, et je ne vous fais pas de dessin. Et donc là, effectivement, je me suis dit que les choses n'allaient pas bien, que c'était mal engagé. Alors, c'est pas uniquement pour ça, bien sûr, que la City a déposé le bilan, mais je me suis dit que, bon, on n'était plus véritablement dans la situation impériale dans laquelle nous étions quelques années auparavant. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que la City a eu des difficultés, et puis maintenant, quand vous regardez les marques de prêt-à-porter, vous apercevez que toutes quasiment ont eu des difficultés, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que Zara, H&M ont développé des modèles extrêmement réactifs, extrêmement bon marché, extrêmement, comment dirais-je, pertinents aussi au niveau du choix des produits, qui font que, bon, pour acheter autre chose, il faut avoir la fibre un peu philanthrope, parfois.
C'est joliment dit. Dans votre livre, on voit aussi que vous avez un rapport aux absents qui est presque joyeux. C'est-à-dire que, d'abord, vous semblez écouter ou parler avec les morts, même avec Zola. Donc, en tout cas, vous le présentez de cette façon-là. Parce que, pour écrire ce livre, vous retournez dans l'appartement familial, pour des raisons personnelles, et vous nous racontez, finalement, la présence de gens qui ne sont plus là, comme si tout ça était parfaitement naturel et j'ai envie de dire convivial. Ça aussi, c'est quelque chose qui reste et qui restera toujours parce que vous avez grandi dans cet environnement-là, du sentier.
Mais oui, mais vous aussi, enfin, vous n'avez pas évolué dans l'environnement du sentier. Je ne vous connais pas, Sylvie, mais j'imagine que, comme tout le monde, vous parlez avec des morts connus et des morts inconnus. C'est-à-dire, moi, je parle beaucoup avec les morts. Alors, je parle beaucoup avec mon père, par exemple, puisque j'aimais beaucoup mon père. J'aimais beaucoup Claude Courtois, qui était un professeur que j'ai eu à Toulouse. Et il m'arrive souvent, dans la journée, de parler avec eux, d'échanger des propos et des commentaires. Et puis, je parle aussi avec des morts que je n'ai jamais connus, mais auxquels je pense beaucoup. Je sais pas, vous êtes à Bordeaux. Moi, je pense souvent à Montesquieu. Et Montesquieu est un personnage important pour moi, il ne me connaît pas, moi je le connais, je l'ai lu, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il a écrit. L'Esprit des lois est un livre extrêmement important pour moi, et donc il m'arrive fréquemment de me dire, voilà, qu'est-ce qu'aurait pensé Montesquieu d'un phénomène qu'il n'a pas connu, puisqu'on appartient à une époque, mais enfin, l'Esprit des lois, voilà, quand Montesquieu écrit « Mon âme se prend à tout », j'imagine qu'il se serait évidemment intéressé à un certain nombre de phénomènes de l'époque actuelle. Et si vous voulez, je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas relater nos conversations avec les morts, sachant que les morts sont, enfin, c'est un commentaire personnel, mais ils sont parfois beaucoup plus importants que des vivants qui sont certes vivants, mais qui vous embêtent un peu. Vous voyez, il y a des gens qui vous parlent, c'est un peu laborieux et pesant, alors que vous préféreriez avoir des conversations avec d'autres personnes. Et de fait, la lecture, pas seulement la lecture, mais la lecture vous permet d'avoir des conversations avec des gens. Finalement, voilà, Flaubert vous parle, il vous parle au travers des âges, et vous le comprenez très bien, alors que le monde dans lequel il a vécu est un monde qui n'a plus rien à voir avec le nôtre.
Oui, d'ailleurs, vous le dites, hein, vous dites l'amour, c'est pour les vivants et l'écriture, c'est pour les morts. Et donc, elle est intéressante, cette phrase, hein, parce que effectivement, vous revenez sur le fait que l'écriture et la lecture a pour vous un sens profond du lien. Et d'ailleurs, vous nous convoquez à cet endroit-là.
Oui, c'est évident que l'écriture pour les morts, elle a différents usages. Elle a le premier usage qui est de convoquer les morts, de rappeler leurs souvenirs, de rappeler leur existence. C'est-à-dire de dire qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est ce que je me suis dit pour le sentier. Je me suis dit que finalement, je ne veux pas me lancer dans des supputations, mais peu de gens ont eu la possibilité de voir ce que j'ai vécu et d'écrire cela. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse. Et puis, l'autre vision que j'ai de cela, c'est effectivement de rendre ces morts vivants, de parler avec eux, autrement dit, de reconstituer leur monde, c'est-à-dire de leur donner de l'existence, puisqu'ils n'existent plus. Et l'écriture, elle a, à mon avis, valeur de témoignage. Elle est là pour témoigner de l'existence telle qu'elle a été. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé d'écrire ce livre sur le sentier.
Et alors, il y a finalement presque deux parties dans ce livre. La première partie a quelque chose d'assez jubilatoire. Vous racontez vos déboires avec la justice quand, finalement, vous travaillez pour la City et que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez effectuer des tâches assez diverses et variées. Et puis, une deuxième partie que je qualifierais de plus tendre, assez nostalgique, un peu mélancolique. Mais malgré tout, vous gardez, quoi qu'il arrive, une forme de joie, et notamment en écrivant, parce qu'il y a pas mal de jeux de mots, pas mal de phrases assez chocs, et il y a aussi beaucoup de références culturelles dans votre livre. C'est-à-dire que vous vous adressez aussi à une époque.
Oui, je pense que c'est... Ça, je pense que c'est en partie lié aussi à mon autre profession, puisque donc je fais de la radio, et la radio, comme vous le savez, c'est un métier où on écrit beaucoup. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, la radio est un média écrit. Et d'ailleurs, on parle à juste titre d'une écriture radio. Et cette écriture radio, elle m'a façonné. C'est-à-dire, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la radio, et ça doit faire à peu près 15 ans que je fais un billet par jour, ce qui fait que, je sais pas, je numérote mes billets, je dois en avoir fait 3900 ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, on fait pas 3900 billets impunément, ça veut dire que j'écris comme je parle, et ça veut dire que je structure mes phrases de la même façon. Donc, dès lors que je fais une matinale et que je dis des choses pour réveiller les gens, bon, il faut effectivement avoir une parole qui sait exactement là où elle doit aller pour exercer, je ne sais pas, une forme de d'attirance, pour qu'on écoute quelque chose à une heure où on n'a qu'une envie, c'est de pioncer, puisque lorsqu'on réveille les gens, si vous voulez, on est un peu leur réveil matin, et il faut s'imposer dans leurs oreilles. Et donc c'est probablement comme ça que j'ai façonné cette écriture. Alors je ne sais pas ce que ça donne, ça c'est pas à moi de le dire, mais si vous voulez, c'est effectivement ça qui m'importe, c'est de poursuivre finalement cet exercice.
Et alors, à propos de matinale, hein, puisque c'est vous qui en parlez le premier, c'est assez rigolo. Dans ce livre, on voit bien que vous êtes passé un décalage horaire, hein, puisque vous dites que quand on travaille dans le sentier, avant 10 heures du matin, il ne se passe rien. En tout cas, c'est limite 3 heures du matin pour les gens qui se lèvent avant. Alors que là, vous vous levez particulièrement aux aurores. Vous semblez évoluer dans un univers assez fantasque où finalement rien n'est prévisible. Or, vous travaillez aujourd'hui dans un univers dans lequel tout doit être prévu autant que faire se peut. Enfin, vous semblez avoir pris un contre-pied incroyable dans votre vie de journaliste, Guillaume Herner.
Oui, alors, pour les horaires, non, en fait, plus la boîte allait mal, plus je me levais tôt. Et donc, à la fin, je me levais tôt, pas aussi tôt qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je me lève à 3h30. Donc, je ne me levais pas à 3h30, mais à la fin, je me suis dit, plus jamais je me lèverai tôt, quoi. Bon, je me suis planté, finalement. Voilà, c'est raté. C'est raté. Pour ça, effectivement, c'est raté. L'univers est prévisible. Bon, l'actualité est malheureusement très imprévisible et malheureusement, j'ai l'impression, de plus en plus malheureux. Ça fait 10 ans que j'anime les matins de France Culture et j'ai l'impression que chaque année est pire que la précédente en matière de violence de l'actualité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ignorait, parce que il se trouve que la City a fait faillite quelques jours avant le 11 septembre 2001. Et j'imagine que, comme moi, vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001. Et donc, cette information qui nous est arrivée à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, on l'a reçue avec un mélange d'incrédulité et de sidération. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçue. Et c'était vraiment la fin d'une époque. Pour moi, c'était la fin d'une époque de la City, puisque la City faisait faillite et donc j'allais faire autre chose. Mais c'était aussi la fin d'une époque parce que, si vous voulez, l'illusion de la paix perpétuelle de 1989 était une illusion qui ne tenait plus. On voyait bien que c'était fini. Et d'ailleurs, non seulement ça a été fini, mais on a débuté avec une campagne militaire américaine. Enfin bref, aujourd'hui, des scènes qui sont malheureusement assez familières, puisque ça n'a pas été la dernière intervention américaine. Donc, en fait, il y avait une forme d'euphorie et de joie, parce que le métier était joyeux, et il y avait une forme d'euphorie et de joie, parce que finalement, je pense qu'on regardera cette période comme étant en grande partie une période heureuse par rapport à celle que nous avons traversée, c'est-à-dire 2001-2026, vous voyez, l'enchaînement des choses a été terrible. Il y a eu le terrorisme, il y a eu le Covid, il y a eu les guerres, des guerres multiples. Il y a aussi une situation, parce que je ne veux pas me lancer dans des comparaisons très hasardeuses, mais vous voyez, les guerres que nous traversons aujourd'hui, ce sont des guerres où l'on espère au mieux se retrouver dans la situation hantée. C'est-à-dire que on peut même pas espérer, si vous voulez, avoir cette naïveté qui va nous faire croire que telle guerre va déboucher sur une démocratie perpétuelle. Ça, par exemple, c'est une illusion que nous n'avons plus ou que l'on ferait bien de ne plus avoir du tout.
Oui, alors cette matinale, vous la menez de main de maître parce qu'elle est très chronométrée et c'est assez rigolo cette histoire du souci du détail sur lequel vous revenez dans votre texte d'une façon générale. Alors finalement, d'être devenu journaliste aujourd'hui, est-ce que c'est aussi une façon de pouvoir en quelque sorte rendre hommage tous les jours un peu plus à l'histoire? C'est-à-dire que là, vous vous arrêtez avec votre livre sur une période très précise. Et finalement, vous êtes aujourd'hui au cœur de cette construction de l'histoire avec le souci du détail et, on le voit bien, hein, avec quelque chose en même temps du plaisir, j'ai envie de dire, d'en être, d'être acteur de l'époque.
Oui, alors, plus exactement, d'être une forme de spectateur dans ce registre-là. C'est-à-dire que je pense que les journalistes sont bien souvent des gens très mélancoliques et des gens qui ont besoin de mettre leur intériorité en sommeil. Et donc, la meilleure façon de mettre son intériorité en sommeil, c'est d'être obnubilé par le monde extérieur, y compris parfois de manière complètement déraisonnable, parce que tous les événements ne se valent pas. Or, pour un journaliste, tous les événements se valent. C'est-à-dire la mort de Johnny Hallyday et celle de Charlie Kirk sont des événements de taille comparable, alors que dans un cas, on est dans le registre de la chanson et dans l'autre de la politique. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qui est problématique. Et je pense que le fait d'être journaliste vous protège contre la mélancolie et vous protège contre la sensation d'être passif et de subir l'époque, alors même que vous la subissez, hein, je veux dire, il n'y a pas de débat, c'est évidemment une illusion, mais cette illusion, elle vous aide à vivre, et on a besoin d'illusions pour nous aider à vivre. Et donc je pense qu'un certain nombre de périodes de ma vie ont été des périodes qui auraient pu être extrêmement angoissantes pour moi si je n'avais pas été journaliste. Vous voyez, je me souviens, alors c'est un détail, enfin, c'est pas tant un détail que ça, parce que ça n'a pas été un détail pour le monde. Mais par exemple, la catastrophe de Fukushima, je me souviens que j'avais fait beaucoup d'émissions à l'époque, c'était un événement très important. Et je pense que le fait d'être journaliste et de relater cela est quelque chose qui m'a permis de maîtriser l'inquiétude légitime qu'on pouvait avoir. Je sais que maintenant on dit qu'il s'est rien passé, que tout va bien, etc. Mais d'abord, je ne sais pas si c'est entièrement exact, et puis surtout, a posteriori, évidemment, tout est plus simple en matière de prévision de l'avenir. Donc, c'est très important pour moi de considérer qu'effectivement, le fait d'être journaliste m'a permis d'être beaucoup plus serein face à un certain nombre d'événements qui étaient en réalité extrêmement angoissants.
Et écrire ce livre, c'était une façon pour vous aussi de pouvoir prendre le temps, au contraire, de vous arrêter et d'essayer de garder ce qui était le plus important pour vous?
Pour moi, si vous voulez, le fait d'écrire un livre, c'est une sorte d'exercice intellectuel, parce que un livre, c'est une série de problèmes. C'est-à-dire, en fait, quand vous écrivez un livre, vous ne cessez de vous poser des questions, de vous former une représentation du passé, parce que finalement, le passé n'existe pour vous que lorsque vous l'avez est posé sur une feuille de papier. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je raisonne. On peut raisonner de manière différente. Mais moi, je me suis rendu compte que la meilleure manière pour moi de figer le passé, c'était de l'écrire. Et c'est ainsi que j'en avais une représentation, et une représentation exacte. C'est-à-dire, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, à la fidélité. J'ai écrit ce livre au travers de mes souvenirs, et de mes souvenirs uniquement. Et tant pis si les choses se sont déroulées différemment. Si vous voulez, c'est ma représentation des choses. Et pour écrire quelque chose, quelle que soit la chose que vous souhaitez écrire, vous devez trouver des biais, des manières de raconter ça. Et c'est pourquoi, si vous voulez, pour moi, l'écriture est une sorte de véritable casse-tête.
Quand vous écrivez ce livre, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes particulièrement ému? Parce que en le lisant, vous nous convoquez à des moments parfois de grande émotion.
Oui, bien sûr, oui. C'est un livre qui m'a... Oui, c'est un livre qui est rempli d'émotions, qui est écrit avec mon émotion. Et si vous voulez, il n'y a pas une ligne que j'ai écrite sans être obsédé par cette ligne. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'en fait, au début, je devais faire un livre qui n'avait absolument rien à voir pour mon éditrice. Et ce livre, Schmattès, est en quelque sorte un livre qui répond au livre précédent que j'ai publié, Judée Obsession. Et ces deux livres, si vous voulez, sont des livres que j'ai écrits avec ce que j'ai de plus obsessionnel en moi. Et avant d'écrire Judée Obsession, je devais écrire un livre politique d'actualité pour mon éditrice. Et j'étais vraiment... J'avais le stylo en main, plutôt l'ordinateur en main. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, tu vas passer 6 mois, 1 an de ta vie à écrire un machin sur des trucs dont tu te fous éperdument. En tant que citoyen, je m'intéresse à la politique, mais sur le plan existentiel, c'est assez différent, quoi. Et je me suis dit, mais il faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu écrives quelque chose sur ce qui est vraiment la chair de ta chair. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit sur quelque chose qui est véritablement quelque chose qui me constitue. Et je pense que c'est... Enfin, c'est peut-être inexact de raisonner de la sorte, mais moi, je me dis que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous écrivez sur autre chose que ce qui vous obsède, finalement, ça n'a probablement pas beaucoup de valeur, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure que vous parliez facilement avec des gens qui ne sont plus là. Est-ce que certains absents qui sont dans ce livre vous ont donné leur avis sur votre écriture et sur ce livre ?
Oui, je pense qu'ils sont, ils sont plutôt contents. Je sais qu'il y a des vivants qui ne sont pas contents, mais les morts, eux, sont très satisfaits qu'on parle d'eux. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont restituées dans ce monde-là, qui sont très heureuses d'être racontées. Parce qu'en fait, ce qui vaut pour le genre humain, c'est que lorsqu'on n'est pas raconté, on ne compte pas. Et si personne ne raconte ce que vous avez vécu, si personne ne raconte une aventure collective, une société, une entreprise, c'est une aventure collective aussi, eh bien, ça veut dire que cette entreprise ne comptait pas.
Et ce sera ma dernière question, Guillaume Erner. Est-ce que vous réfléchissez le matin longuement avant de vous habiller?
Non, pas beaucoup, parce que j'ai peu de temps. Et à chaque fois que mes amis au bureau critiquent la manière dont je m'habille, je leur dis que bon, ils ont encore de la chance que à 3h30 à tâtons, j'ai réussi à trouver des fringues et à les enfiler, parce que voilà, c'est vraiment pas une heure pour se réveiller et pour s'habiller.
Mais vous ne prendriez pas le risque de vous coudre un costume?
Non. Mon grand-père, qui cousait beaucoup de costumes, avait une certaine propension à les coudre pas droit du tout.
Merci beaucoup, Guillaume Erner.
Merci beaucoup, Sylvie.